Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol volé et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec toi la tête. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio più ribelle.
Paniquez pas,
niquez tout. Canu Info du vendredi.
Bonsoir, vous êtes bien sur le 102.2 Radio Canu, il est 19h02 et c'est l'heure des infos du vendredi. Aujourd'hui, on va d'abord parler de la manifestation en soutien à Afrine, manifestation qui aura lieu à Lyon.
Et puis, à Lyon toujours, on parlera du rassemblement qui a lieu le 13 mars. Un toit, c'est un droit.
Et enfin, on parlera d'une famille qui a été privée d'eau pendant 10 ans pour 300 euros d'impayés.
Rubrique nationale toujours, on vous parlera de la grève à la CNDA, la Commission nationale du droit d'asile.
On enchaînera avec un rassemblement à Oulin en hommage aux morts de l'amiante.
Et puis on enchaînera sur aussi des cancers en série chez les salariés d'Orange qui sont exposés à la radioactivité.
Ensuite, un entretien avec un invité spécial qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé le week-end dernier à Bure.
Et on passera après à l'international pour vous parler du nouveau rapport sur les stérilisations forcées en Europe.
On enchaînera avec la traditionnelle rubrique du Kurdistan, de longues brèves du Kurdistan pendant 10 minutes en fin d'émission. Avant de terminer
par le traditionnel agenda.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-Rouge.
Ce reportage sur la grève qu'on a
Canu Info du vendredi.
Rubrique locale.
Rubrique locale, on est de retour à l'antenne. Et oui, rubrique locale, on commence tout de suite par un événement qui se tient juste à côté, à environ un kilomètre d'ici, puisque là, tout de suite, à 19h, il y a un rassemblement Place Bellecour, rassemblement qui va amener à une manifestation au flambeau en soutien à Afrine. Donc Afrine qui continue de résister aux attaques incessantes de l'armée turque, que divers collectifs lyonnais appellent à soutenir. Alors leur revendication rapidement, c'est donc un rassemblement, plus une manifestation au flambeau ce soir. Ils disent, ils écrivent dans leur communiqué, nous appelons l'ONU à agir contre les bombardements de la Turquie qui violent le droit international, notamment la dernière résolution et le cessez-le-feu en Syrie. Nous appelons les puissances citées à comprendre la réalité sur le terrain. Donc les puissances citées sont essentiellement les Occidentaux, l'Europe et les États-Unis. À comprendre la réalité sur le terrain et à prendre une position claire contre l'État turc. Le nord de la Syrie, y compris Afrin, doit être déclaré zone d'exclusion aérienne. C'est une de leurs revendications. Et enfin, ils rappellent que la menace de Daesh, Al-Qaïda et des autres groupes similaires existe toujours et que toutes les forces doivent être vigilantes contre ces forces islamistes. Donc, la manifestation en soutien à Afrin, c'est tout de suite au départ de Bellecour avec des flambeaux.
Et le 13 mars, il y a un autre rassemblement organisé par Un Toit, c'est un droit, par notamment Jamais Sans Toit.
Oui, c'est le collectif Jamais Sans Toit qui organise plusieurs événements, dont du coup un rassemblement festif à Place Satonnet le 13 mars à partir de 18h, avec un apéro partagé avec la cantine sauvage et la fanfare FAME. Je vous lis du coup leur communiqué. Fin novembre, des parents d'élèves et des enseignants des écoles Victor Hugo, Robert Doisneau et Michel Servet se sont mobilisés avec des habitants du quartier au sein du collectif Jamais sans toit pour que le droit à l'hébergement soit appliqué pour des élèves et leurs familles sans abri. Suite à l'occupation des gymnases des écoles pour héberger ces élèves et alerter l'opinion publique, toutes les familles sans abri ont été hébergées en foyer ou en hôtel. Aujourd'hui, de nouveau, ces élèves et leurs familles sont menacés de retour à la rue au 31 mars, suite à l'annonce de fermeture des lieux ouverts pour le plan hivernal d'hébergement. Or, la loi prévoit que toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Nous ne demandons donc que le respect de la loi et refusons que ces élèves se retrouvent à nouveau dehors. Rien n'est acquis sans mobilisation. Du coup, on vous invite à aller regarder sur le Facebook de Jamais sans toi du Rhône ou sur Twitter, parce qu'en fait, il n'y a pas que ces événements, cet événement qui est prévu. Il y en a d'autres, et notamment le mercredi 28 mars à 18h, il y aura un rassemblement devant la préfecture pour demander une audience au préfet pour justement demander la non-remise à la rue des familles hébergées au 31 mars.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et on va maintenant du côté de Perpignan, où une famille a été privée d'eau pendant 12 ans pour 200 euros d'impayés. Le tribunal de grande instance de Nanterre a donc condamné la compagnie des eaux SOR à payer 2000 euros d'amende ainsi qu'à rétablir l'alimentation en eau courante d'une famille qui en était privée depuis 12 ans, donc pour un impayé de 200 euros. L'histoire remonte en fait à 2005. Pour donc cet impayé, une mère et son fils vivant à Perpignan voient leur alimentation en eau courante interrompue par leur fournisseur, la compagnie SOR. Ils s'approvisionnent alors dans des fontaines publiques à l'aide de jerrycans et finissent par avoir recours à un branchement sauvage pour pouvoir assurer les tâches du quotidien. Une situation donc qui perdure 12 ans. En 2013, la compagnie des eaux constate le branchement sauvage et décide alors de porter plainte pour vol d'eau. Oui, la plainte est déposée en 2016. Le 11 janvier 2018, la jeune femme est donc condamnée en première instance à 3 mois de prison avec sursis pour vol d'eau et acte de destruction, dégradation ou détérioration des équipements de SOR et à 5000 euros d'amende. 4 jours plus tard, la compagnie d'eau est elle aussi condamnée par le tribunal de grande instance de Nanterre à rétablir l'eau courante chez la femme et à payer 2000 euros aux associations intervenues sur ce dossier. 2000 euros, c'est la valeur estimée de la dignité humaine, la somme qui justifie que l'on vous prive de nécessités aussi basiques que celle de boire, manger ou vous laver. Réduction de débit, coupure d'eau. Malgré l'interdiction, les compagnies d'eau multiplient ces pratiques. Depuis septembre 2014, Veolia a été condamnée une dizaine de fois et SOR 4 fois. Sur son site internet, la compagnie SOR se défend et rapporte, non sans une pointe de fierté, que la demande de dommages et intérêts de 52 500 euros réclamée par la plaignante privée d'eau pendant 12 ans a été refusée, preuve irréfutable selon eux, qu'elle a bien eu accès à l'eau durant toute cette période. Il aurait donc fallu, selon eux et selon le tribunal, que cette femme accepte sans rechigner de perdre sa dignité et aille docilement courir les fontaines des villages voisins pour se fournir en eau. Tout pourvu qu'elle ne détourne pas l'eau de la société. Face aux intérêts privés, vos vies et vos besoins vitaux n'ont que très, très peu de valeur. Voilà le discours servi, et notamment plus précaire, par la classe dominante et ses institutions.
Et moi, je vais vous parler du coup de la grève à la CNDA. On en a déjà parlé avant, parce que ça fait un mois qu'ils sont en grève. Et puis parce que ça n'arrive pas tous les jours non plus, parce que la dernière grève, donc elle remonte à 2015, elle avait duré 8 jours à l'époque. Alors la CNDA, c'est le tribunal qui permet de contester les décisions de l'OFPRA, qui est l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, et qui permet de reconnaître ou pas en fait le statut de réfugié aux demandeurs d'asile. Et donc si l'OFPRA donne une décision négative, les demandeurs d'asile peuvent aller à la CNDA. Et alors les rapporteurs et les secrétaires d'audience, leur rôle à la CNDA, c'est en fait, donc les secrétaires d'audience, un peu comme les greffiers ou les greffières, c'est d'être sûr que tout le monde est bien présent, les avocats, les personnes concernées, puis les interprètes. Et les rapporteurs d'audience, et ben en fait, c'est les seules personnes qui connaissent réellement le dossier des demandeurs d'asile au moment de l'audience. Parce que les trois juges qui vont prendre la décision finale, en fait, et ben ils ont en général pas du tout potassé leur, leur dossier. Donc le rapporteur, lui, il aura fait une synthèse, puis il aura fait une petite analyse, et il donnera son avis sur ce dossier, avis que les juges pourront suivre ou non à la fin de l'audience. Et les rapporteurs, eux, ben en fait, ils prennent pas du tout part à la décision finale. Et donc les grévistes, en fait, ils demandent justement à améliorer leur statut, parce que les secrétaires d'audience, elles sont pas du tout reconnues au niveau de leurs compétences. Et puis les rapporteurs d'audience, ils aimeraient avoir aussi un statut un peu moins précaire, parce qu'actuellement, ils sont 90% à être contractuels, ce qui est le taux le plus élevé parmi toutes les juridictions en France. Et puis les grévistes ont aussi un projet de juridiction pour justement avoir une amélioration de la justice en droit d'asile, et puis en finir avec une logique du chiffre. Actuellement, la CNDA, c'est 48 000 décisions rendues en 2017, ce qui en fait la plus grosse juridiction. Et en fait, le gouvernement veut toujours réduire les délais de prise de décision, ce qui en fait fait que finalement bah, les gens ont très peu de temps pour instruire les dossiers, pour prendre une décision, et aussi que les demandeurs d'asile ont en fait très peu de temps aussi pour finalement préparer correctement leur recours et puis se préparer à l'audience. Alors, les grévistes demandent aussi en fait à améliorer donc la formation de la CNDA, parce que en fait ils estiment que les juges qui siègent, ben en fait la majorité, ils sont incompétents en droit d'asile et en fait ils appartiennent à d'autres juridictions, et puis de temps en temps ils viennent à la CNDA, ils prennent une décision et puis après hop ils repartent faire leur travail ailleurs. Et en fait les rapporteurs, ben eux, ils aimeraient bien être intégrés à la prise de décision, vu qu'ils font la majorité du travail, et puis que les enjeux sont énormes, et qu'après la CNDA, et ben les demandeurs d'asile, en fait, ils n'ont pas moyen de contester la décision qui a été prise. Et il faut savoir que les audiences, elles durent en moyenne une demi-heure, ce qui est quand même très très peu, vu que les personnes en plus ne connaissent pas le dossier. Actuellement, il y a aussi les avocats qui officient à la CNDA, qui font partie de l'association ELENA, et qui répertorient en fait les avocats qui sont spécialistes en droit d'asile. Et cette semaine, ils ont demandé à une grève des plaidoiries, et ils veulent, ils ont reporté cette grève du coup la semaine prochaine, et ils sont aussi en grève contre le projet de loi asile et immigration dont on vous en a parlé également. Et alors les mesures qui sont contestées, il y a notamment les vidéos audiences, ce qui voudrait dire que les demandeurs d'asile, en fait, ils se déplaceraient plus jusqu'à Paris. Et ils seraient plus présents dans les salles d'audience, mais en fait, ça se ferait à partir, à travers une petite caméra, donc qui serait quand même assez compliqué vu les sujets qui sont débattus pendant l'audience. On imagine un peu mal comment est-ce qu'on peut se faire une idée sur ce que raconte la personne quand il y a déjà le biais de l'interprète plus le biais de la vidéo. Il y a une contestation des recours non suspensifs qui vont être appliqués aux procédures accélérées, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui ne seront pas en procédure classique, en demande d'asile, mais qu'on va mettre en fait dans une procédure un peu au rabais, où les délais seront encore plus courts. Et ce qui voudrait dire que quand ils demandent à contester la décision de l'OFPRA devant la CNDA, eh ben en fait la préfecture, elle pourra prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français, et que les personnes pourront être expulsées de la France avant que la CNDA puisse rendre sa décision. Et dernière mesure contestée, c'est aussi le délai qui va être réduit à 15 jours pour faire un recours. Actuellement, c'est un mois, ce qui est déjà quand même assez court, parce que dans le droit commun, les personnes ont deux mois pour faire un recours face à une administration. Et donc là, actuellement, c'est déjà réduit à un mois. Et là, dans le projet de loi, c'est 15 jours. 15 jours, c'est absolument rien pour pouvoir rédiger correctement, rencontrer un avocat ou une association qui va aider dans les démarches. Donc, les professionnels de l'asile et de la CNDA demandent à ce que ce soit une juridiction de qualité et qu'on arrête l'abattage des droits d'asile.
Et on va aller sur une autre lutte maintenant et revenir un peu sur l'amiante, puisque 20 ans après son interdiction, il n'y a toujours aucun procès qui aboutit. Et on revient dessus notamment parce que ce matin avait lieu une commémoration à Oullins pour André Triadon et toutes les autres victimes de l'amiante. Il y a 11 ans, le 11 mars 2007, André Triadon, électricien à la SNCF, est mort après 6 mois d'un combat contre la maladie. Cette maladie, il l'avait contractée au travail, en manipulant pendant des années des matériaux amiantés. Elle s'était déclarée bien des années plus tard. André avait 52 ans. Cette mort prématurée est insupportable pour toutes les personnes qui ont travaillé avec lui et pour beaucoup d'autres, car les dangers de l'amiante sont connus depuis des décennies et rien n'a été fait par l'État ni par les dirigeants de la SNCF pour protéger la santé des salariés. Pourtant, le premier décès lié à l'amiante date de 1899 par le docteur Murray à Londres, à peine 20 ans après le début de l'exploitation des mines d'amiante en Angleterre. Au début du XXe siècle, la dangerosité de l'amiante est confirmée à de nombreuses reprises, jusqu'au premier cas français de mésothéliome diagnostiqué en 1965. Il faudra attendre plus de 30 ans pour que l'État français interdise l'amiante en 1997. Mais le mal était fait, car les industriels de l'amiante en ont vendu des millions de tonnes, 5 millions de tonnes juste en 1975, sur tout le territoire, et aujourd'hui l'héritage est lourd, car il ne reste pas moins de 50 kilos d'amiante par habitant. Les industriels, les lobbies de l'amiante, ont pesé de tout leur poids pour vendre ce matériau mortel. Ils sont responsables de milliers de morts en France et partout dans le monde. En France, l'Institut de veille sanitaire chiffre à 118 000 décès directement liés à l'amiante entre 1995 et 2009, et les caisses de prévoyance SNCF recensent 36 décès juste pour l'année 2015. Aux ateliers SNCF d'Oulin, 21 ans après l'interdiction de l'amiante en France, on dénombre 33 victimes de l'amiante et parmi eux 11 décès. Ainsi, avant André, il y avait eu Bernard Guerpillon, électricien au montage, décédé en 1987. Courant 2008, Pierre Adamo, de la logistique, atteint également d'un cancer, meurt précipitamment. Puis en 2009, c'est Marc Padural, conducteur de Fenwick à la logistique, qui vient ajouter son nom à cette sombre liste des victimes de l'amiante aux ateliers d'Oulin. À ces cheminots décédés en activité s'ajoutent les décès de retraités, comme André Jalla, André Tabaret, et au printemps, c'est un ancien tourneur de l'atelier de bobinage, Jean Raffoz, 62 ans, qui est lui aussi victime de l'amiante. Locomotives, voitures, wagons, locotracteurs, TGV, autorails, automoteurs, tous les engins de la SNCF sont pollués par l'amiante, et plus encore ceux qui ont été construits dans les années 70 à 80, car en 1975, la consommation d'amiante en France avait, comme je vous l'ai dit, atteint son maximum, avec 5 millions de tonnes d'amiante. En 96, quelques mois avant son interdiction, la France en importait encore 35 000 tonnes, destinées principalement à la fabrication de l'amiante ciment, par exemple les cheminées de contacteurs. Aux ateliers d'Oulin, grâce à la lutte menée par la CGT notamment, mais grâce surtout à la lutte de tous les salariés, la prise en compte de l'amiante s'est améliorée avec les constructions du local amiante au bâtiment 9 et des cabines de tronçonnage au bâtiment 22. Mais beaucoup reste à faire, notamment dans les esprits des dirigeants, car l'amiante ne doit pas être un prétexte pour vendre les terrains des ateliers d'Oulin, en tout cas pour les personnes qui luttent sur ce lieu de travail. La SNCF doit assumer ses responsabilités en dépolluant le site d'Oulin afin d'y reconstruire des ateliers et bureaux répondant aux normes environnementales en vigueur et ainsi assurer un avenir aux cheminots et aux cheminotes sur le site historique d'Oulin. Face à ce terrible constat, l'année dernière, le syndicat CGT des cheminots d'Oulin a porté ce dossier en justice pour manquement de l'employeur sur la santé et la sécurité des salariés. L'instruction des 302 dossiers est ouverte, mais l'affaire a été transmise à la section judiciaire économique et finance à Saint-Denis de la Réunion. Cette volonté de délocaliser l'instruction à 10 000 km de Lyon montre que rien ne sera facile pour faire reconnaître le tort de la SNCF et rendre justice aux cheminots d'Oulin. En parallèle de la lutte lyonnaise, des recours en justice pour les dizaines de milliers de personnes empoisonnées par l'amiante pendant leur vie professionnelle se ferment les uns après les autres. Les premières plaintes ont donc été déposées en 1997. 20 ans plus tard, aucun procès n'a encore eu lieu. L'année 2017 a pourtant été ponctuée par les victimes qui meurent par milliers chaque année en France de diverses décisions judiciaires dévastatrices. En septembre, les mises en examen de 9 décideurs, industriels, scientifiques, lobbyistes ou hauts fonctionnaires, ont été annulées. Au début de l'été, une ordonnance des juges d'instruction du pôle santé publique annonçait la clôture de l'instruction dans une vingtaine de dossiers pénaux de l'amiante, dont Eternit, Valeo et Everit. Motif invoqué, il est impossible de dater le moment où la faute a été commise et donc de l'imputer à quiconque. Des non-lieux devraient être prononcés d'ici peu. Révoltés par cette annonce d'impunité, les associations de victimes ne comptent pourtant pas en rester là. L'Association nationale des victimes de l'amiante et l'Association des personnes accidentées de la vie et handicapées, très actives dans le soutien aux victimes de l'amiante, annoncent qu'elles iront en appel, voire en cassation, si des non-lieux sont prononcés. Affaire à suivre donc, et on donne tous nos soutiens aux personnes qui luttent pour enfin que soit reconnue la responsabilité des industriels et autres hauts dirigeants dans ce qu'on peut appeler... Je sais pas, ouais, c'est ça, c'est comment tu peux tuer par le travail. Voilà.
Et de matériaux mortels, on passe vers d'autres matériaux mortels. Une enquête de Mediapart ces derniers jours a apporté de nouveaux éléments sur un autre scandale sanitaire de premier ordre, scandale qui avait déjà été mis au jour en 2013, à savoir des dizaines de cancers chez des travailleuses et travailleurs des télécoms chargés d'installer des lignes téléphoniques depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Les responsables de ces cancers sont des parafoudres qui sont manipulés par les employés des télécoms. Ce sont des petits tubes de quelques centimètres de long qui servent à protéger les lignes téléphoniques des incendies, des coupures de courant ou encore des électrocutions. Radioactifs, ces petits tubes émettent des gaz cancérogènes. À partir des années 70, on y a particulièrement recours dans le cadre de l'équipement de toute la France en ligne téléphonique. Des dizaines de milliers de personnes, alors employées par les PTT, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque ce service public, et les personnes qui étaient déployées, on les appelait les lignards. Donc des dizaines de milliers de personnes sont chargées de mettre en place ces lignes et entrent en contact direct avec les parafoudres radioactifs. Il en faut 4 pour chaque ligne au moins de parafoudres. Cela représente à l'échelle de la France entre 20 et 80 millions de parafoudres qui sont passés entre les mains des agents sans avertissement. Dès 1974, parce que ça commence au début des années 70, mais dès 1974, le Centre National d'Études des Communications avait alerté sur la sécurité des employés. On savait donc que c'était très dangereux pour la santé. En 1977, 3 ans plus tard, le ministère des Télécommunications est informé par une association de cette dangerosité. Et à partir de là, la Direction Générale des Télécommunications interdit l'usage des parafoudres, à radioéléments, mais n'en préconise pas le retrait systématique. Et alors, vu qu'elle n'en préconise pas le retrait systématique, elle va aller plus loin parce qu'il y a des énormes stocks à l'époque de parafoudres radioactifs et on va continuer à les déployer tranquillement sur le réseau. Au début des années 2000, petit saut chronologique, les cancers commencent à être déclarés par vagues, notamment dans la région Auvergne, où une dizaine de personnes meurent à la chaîne. Un comité local d'hygiène et du personnel, CHSCT, composé de syndicalistes, se met en place dans la région pour enquêter sur l'affaire. Alors là, lien avec la chronique précédente, grâce à l'aide d'Henri Pézera, qui était toxicologue et qui a mis au jour le scandale de l'amiante, et d'un médecin du travail, le CHSCT finit en 2008 par découvrir la responsabilité des parafoudres radioactifs. C'est donc à ce moment-là qu'on se rend compte que ces cancers sont liés à ces fameux parafoudres. Le médecin leur révèle alors le cas d'une agence des télécoms de la Croix-Rousse à Lyon, où une dizaine de cancers du sein ont été déclarés par des employés dans les années 90. De même, il découvre à Saint-Nazaire, à côté de Nantes, que 5 jeunes lignards sont morts de cancer entre 1989 et 1995. Le plus vieux de ces morts, ancien lignard, avait 37 ans. De quoi s'interroger. En 2001, mise au pied du mur, l'entreprise commande une étude réalisée par l'INSERM, l'Institut National de la Santé, qui révèle une surmortalité par cancer chez les agents des lignes. La même année, 29 cancers sont découverts à Béziers et Bédarieux chez des employés ou ex-employés. L'entreprise finit par se rendre à l'évidence et recommande le retrait des éléments radioactifs lors des opérations de maintenance. Cependant, elle juge l'exposition des agents en charge de ces manipulations anodine. Les lignards sont par ailleurs loin d'être les seuls travailleurs et travailleuses à être exposés à la radioactivité des parafoudres dans leur cadre du travail des PTT et aujourd'hui Orange. En effet, ces parafoudres sont particulièrement concentrés dans les répartiteurs de centrales téléphoniques. Et qu'est-ce que c'est ça, un répartiteur de centrales téléphoniques? Eh bien, c'est une pièce sécurisée qui est généralement située au rez-de-chaussée du bureau de poste communal. Il y a dans un grand répartiteur en général 17 000 parafoudres, dans un petit 3 000 parafoudres. Ce sont donc les agents qui travaillent à ce niveau qui sont les plus exposés à cette exposition. Et cette exposition est très largement au-dessus des limites autorisées.
à tel point que l'accumulation de doses à laquelle sont exposées ces travailleuses et travailleurs est en moyenne deux fois plus élevée que pour celles et ceux qui travaillent dans l'énergie nucléaire, notamment les centrales, les centres de traitement, etc. Les travailleuses et travailleurs d'Orange ou sous-traitants qui travaillent dans les dépôts de parafoudre ont dépassé en 1 à 2 heures la dose annuelle de radioactivité tolérée pour le public. 1 à 2 heures d'exposition, c'est l'équivalent de ce qu'on tolère généralement pour 1 an d'exposition à la radioactivité. Voilà, et on nous apprend, Mediapart nous apprend qu'il serait possible d'empêcher ce type d'exposition dangereuse par des mesures techniques somme toute assez vulgaires, puisqu'il suffirait de masques avec cartouches à charbon actif. Oulala, gros investissement. Et là encore, la logique du profit est sans concession. Cela coûte évidemment moins cher d'exposer les salariés à un risque mortel que de prendre les précautions qui les en protégeraient. Voilà, et de la radioactivité, nous allons passer à la gestion des déchets nucléaires. On en a parlé dans les derniers Canu Info et vous en avez sans doute aussi beaucoup entendu parler dans les autres médias plus mainstream. Vous avez sans doute lu plein de chroniques là-dessus. Il y a eu une évacuation d'occupants à Bure il y a quelques semaines. Alors je rappelle que Bure, c'est la localité qui se situe dans une bien belle région méconnue, en Meuse, à côté de la Haute-Marne, ce que nos aïeux appelaient la diagonale du vide, le reste de la France donc. Et c'est cette localité hyper rurale, et c'est d'ailleurs une des raisons du choix de ce projet, qui a été choisi pour enfouir les déchets les plus radioactifs produits notamment par les centrales nucléaires et qui sont aujourd'hui gardés autour des centrales nucléaires. C'est à la fin des années 90, en 98, que le gouvernement à l'époque dirigé par Jospin et qui avait comme ministre de l'Environnement une certaine Dominique Voynet, les Verts donc, a choisi ce site d'enfouissement. Voilà, alors on a un camarade avec nous qui était le week-end dernier à Bure, puisqu'il y avait des rencontres à Bure. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là-bas et pourquoi d'abord ce week-end à Bure?
Eh bien donc ce week-end de rencontres intercomité à Bure était prévu depuis plusieurs mois. Donc ces comités ont été créés en septembre-octobre à la suite d'une vaste opération de perquisition qui a visé différents lieux de vie et d'organisation à Bure et alentour. Donc avec notamment comme instruction chef d'inculpation association de malfaiteurs. Et donc en réaction à ça, un certain nombre de comités se sont créés un peu partout en France pour faire parler de la lutte et soutenir les gens à Bure.
Et donc peut-être pour te couper, excuse-moi, ouais. Mais peut-être pour rappeler que ces perquisitions, elles ont eu lieu dans des lieux qui sont connus comme des lieux de résistance à ce projet. Il y a un lieu historique qui a une dizaine d'années, et puis des lieux plus récents.
C'est ça. En gros, il y a eu un certain nombre de lieux qui ont été visés par ces perquisitions. Donc la Maison de la Résistance, qui est une maison collective achetée par un certain nombre d'associations il y a maintenant presque 10 ans, et qui sert un peu de base d'organisation contre ce projet-là. Et donc d'autres lieux politiques, publics ont été visés, mais également des habitations privées ont été perquisitionnées. Et donc ce week-end était organisé pour faire se rencontrer les différents acteurs de ces comités et essayer de penser un peu des manières de lutter communes. Et donc le calendrier a été un peu bousculé par l'expulsion du Bois-le-Jus qui a eu lieu à la fin du mois de février là. Donc une expulsion par 500 gendarmes d'une quinzaine de personnes qui vivaient dans les bois depuis maintenant 2 ans. On peut rappeler que le Bois-le-Jus est un endroit stratégique dans le cadre du projet CIGEO parce qu'il doit y être construit des puits d'aération pour renouveler l'air toxique qui sera contenu dans les futures galeries. Et donc l'occupation de ce bois mettait un coup d'arrêt assez concret à l'avancée du projet, qui visiblement ne plaisait pas au gouvernement, cette occupation. Du coup, un peu un double enjeu pour ces rencontres, donc parler de l'organisation des comités et essayer aussi de se rapprocher le plus possible du Bois-le-Jus.
Et
Alors du coup, qu'est-ce qui... Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est joué sur ce week-end? Quelle était la présence policière? Parce qu'on a vu avant le week-end que, enfin, juste après l'évacuation du Bois-le-Jus, la présence policière est restée très très forte. Il y avait quasiment, on pourrait dire, une occupation militaire du territoire. Qu'est-ce qu'il en a été sur le week-end? Et quels ont été les rapports de force dans la commune et autour?
Ouais, donc oui, une véritable occupation militaire du territoire, avec une présence constante de gardes mobiles dans les villages, donc principalement le village de Bure et celui de Mandran-Barrois aussi, qui est juste à côté. Donc plusieurs camions de GM qui filment les allées et venues constantes des gens, et principalement des opposants, des barrages routiers, un peu partout autour de la zone, avec fouille des véhicules, prise en photo des identités, etc. Et fait un peu plus nouveau, des interdits préfectoraux. Donc trois principaux: interdiction de manifester pour l'ensemble du week-end, interdiction de circuler dans les communes de Bure et Mandran-Barrois, et interdiction de stationner. Donc en théorie, toute personne ayant une voiture garée dans le village était susceptible d'avoir une amende. Donc dans les faits, il n'y a pas eu de contrôle pour ces arrêtés. Après, voilà, on ne sait pas si les gens vont avoir des amendes a posteriori ou quoi. Donc grosse ambiance à Bure et à Mandran-Barrois pendant ce week-end. Hein. Les habitants sont terrés chez eux, climat vraiment de peur, quoi. Et donc un peu de temps pour ces rencontres, un moment de discussion. Avec un peu l'idée de cette question-là, comment élargir le front de la lutte, hein, et le sortir de uniquement Bure et les alentours. Donc, d'où la création d'un certain nombre de comités qui visent à la fois à informer les gens aux quatre coins de la France de ce qui est en train de se passer à Bure et de l'opposition au projet. D'offrir aussi un peu une aide logistique pour soulager les gens qui portent ça et qui vivent là depuis un certain nombre d'années, type cantine, matériaux de construction, construction de cabanes qui puissent être apportées là-haut, et maintenir une pression aussi sur les sous-traitants et tous les gens qui collaborent en fait à l'édification de ce projet et qui ont des ramifications sur tout le territoire. Voilà, donc un peu la teneur des discussions. Et puis un temps un peu plus pragmatique d'essayer de se rapprocher donc du Bois-le-Jus. Il y a eu deux tentatives, une le samedi après-midi avec un cortège avec l'ensemble des gens qui participent à ces discussions, plus d'autres gens du coin qui sont venus. Donc plus de 300 personnes, un cortège qui essaie d'approcher le bois, avec pour objectif de construire une vigie dans un champ à l'orée de la forêt, prêté par un paysan pour l'occasion. Donc gros dispositif policier, plus de 1000 GM, canons à eau, hélicoptères, une équipe de télé de la gendarmerie qui filme l'intégralité de la journée et qui pose sa vidéo sur Facebook, qui va servir à alimenter en fait tous les médias toute la journée et qui sert de propagande officielle en fait. Et des motocross qui suivent les déplacements dans les champs, etc. Donc l'idée, c'était pas forcément d'aller à l'affrontement, ou en tout cas dans une opposition perdue d'avance, mais plutôt d'essayer de pousser le plus loin possible l'avancée vers le bois. Et sans grande surprise, dans un nuage de gaz lacrymogène, le cortège a fini par faire demi-tour.
Et il paraît que on m'a dit que les gendarmes mobiles étaient dirigés par la préfète elle-même qui était venue sur le territoire.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y avait la préfète en écharpe tricolore avec un casque et un mégaphone qui donnait ses instructions assez loin, ceci dit, de la première ligne de gendarmes mobiles. La mise en scène était parfaite. Voilà, donc pour le samedi et le dimanche, une autre tentative avec un peu moins de monde et l'idée d'être plus mobile pour pouvoir peut-être déborder le dispositif, qui s'est soldé à peu près de la même manière que la veille, avec beaucoup de gaz lacrymogène et énormément de gardes mobiles qui raccompagnent le cortège jusqu'à l'entrée du village de Mandran-Barrois et même à l'intérieur en fait. Ouais.
D'accord, du coup le dimanche tout ça se termine, les différents comités et les personnes qui s'étaient donné rendez-vous sur le week-end s'en vont chez elles, et quelles sont aujourd'hui un peu les perspectives, notamment sur la question du Bois-le-Jus et plus largement sur l'opposition à ce projet?
Plusieurs perspectives, il y a d'abord un soutien assez concret aux personnes qui se sont fait arrêter ces derniers temps, notamment pendant l'expulsion du bois, deux personnes se sont fait arrêter, elles sont actuellement en détention provisoire à Nancy, avec un procès en mars ou en avril, je ne sais plus exactement. D'autres personnes se sont fait arrêter ce week-end avec un procès pour 7 d'entre elles le 23 mars, il me semble. Donc voilà, un soutien assez actif sur la question de l'antirépression. Et puis à moyen terme, il y a une manifestation qui est organisée le 16 juin à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc qui est la préfecture de la Meuse.
Bien jolie ville.
Bien jolie bourgade. Et donc qui est le symbole du pouvoir politique local. Et accessoirement, c'est aussi les terres de Gérard Longuet, fervent défenseur du projet. Donc grosse manifestation le 16 juin. Et sans doute une manifestation, enfin une tentative de réoccupation du bois. Qui reste encore à définir pour le moment.
Voilà, ben, merci bien. Et on rappelle que l'opposition à ce projet, ce n'est pas simplement s'opposer à ce qui a déjà été produit, mais c'est aussi, puisqu'il y a quand même 300 km de galeries prévues à cheval sur la Meuse et la Haute-Marne, c'est aussi des choix économiques et énergétiques pour un siècle à venir, des choix nucléaires. Et donc c'est plus qu'important que de s'y opposer.
Et est-ce qu'il y a un moyen de rejoindre les intercomités locaux ? Pour les personnes là qui se diraient qu'elles ont envie de s'organiser pour
carrément à Lyon, il y a donc un comité qui s'est monté qui s'appelle la Clique des Amis de Bure qui organise différents événements et qui je pense vont faire un événement public dans les semaines voire les mois à venir pour parler de tout ça.
Et puis au plan national, il y a un automédia à Bure sur lequel on peut trouver des infos.
Ouais, c'est vmc.camp.
Eh bien, merci camarades, des choses à ajouter ?
Non, pas particulièrement.
On passe aux infos internationales.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et donc, pour commencer dans cette rubrique internationale, on va vous parler d'un nouveau rapport qui a été publié par l'European Disability Forum et qui alerte en fait sur des scandales de stérilisation forcée de femmes en Europe. Donc, entre 2010 et 2013, il y a des juges espagnols qui ont décidé de priver de manière définitive des centaines de femmes du droit d'enfanter. Ils ont ordonné à des femmes de se soumettre à une procédure de stérilisation irréversible et ils ont osé dire qu'il en allait de leur meilleur intérêt. Donc on sait assez peu de choses à propos de ces 400 femmes, mais ce qui est assez clair, c'est qu'elles couraient pas forcément des risques pour leur santé et puis elles n'étaient pas forcément non plus atteintes de maladies héréditaires qui engageaient leur pronostic vital durant l'enfantement. Et du coup, leur seul tort, à première vue, c'était le fait d'être handicapée. Et le cas espagnol, en fait, est vraiment pas du tout isolé. Il y a aussi en Croatie, au Royaume-Uni ou en France qui ont été divulgués dans de nombreux rapports des cas de scandales de stérilisation forcée de femmes et de filles handicapées. C'est pas que le cas dont nous avons connaissance. Il y a bien plus souvent les procédures de stérilisation forcée ne laissent aucune trace dans les registres officiels, et ce parce que les médecins procèdent généralement de leur propre initiative, pratiquant des stérilisations sur des femmes au mépris des procédures légales. Personne ne collecte de données ou n'enquête sur l'étendue réelle de ces violences. Or, tout ceci est en train de survenir en Europe aujourd'hui. Et il y a des preuves qui proviennent de témoignages recueillis, qui sont nombreux, auprès de femmes handicapées. Et du coup, de choses qui ont été faites de façon assez informelle et insidieuse. Une stérilisation forcée survient lorsqu'une femme est soumise à une intervention chirurgicale qui implique l'obturation ou la ligature des trompes de Fallope, sans qu'elle ne sache de quoi il s'agit et sans qu'elle y consente, sans non plus, du coup, évidemment, qu'elle donne son autorisation. Donc, en vertu des normes internationales des droits de l'homme, des droits de l'humain, elle constitue une violation du droit humain, de protection contre la torture et tout autre traitement et châtiment cruel, dégradant ou inhumain, alors que la Convention d'Istanbul, premier instrument contraignant en Europe ayant vocation de prévenir et combattre les violences à l'égard des femmes, l'a définie comme un crime contre les femmes. Donc pourquoi est-ce que ça survient aussi fréquemment ? Il y a toute une série de motifs qui ont été invoqués pour justifier cette procédure en fonction du handicap particulier que présente la personne, donc soit la crainte de l'hérédité, soit encore sur l'argument que la personne ne serait pas apte à élever un ou une enfant. Donc en règle générale, c'est pas la famille qui fait la demande, ce sont des professionnels de la médecine qui prennent eux-mêmes la décision, purement sur la base de préjugés sexistes, misogynes et validistes. Les praticiens de cette sorte agissent au mépris des lois nationales ou des directives médicales, surtout du respect des personnes. Et les femmes roms aussi ont été particulièrement exposées à ce risque d'être soumises à une stérilisation contrainte ou forcée. Donc là aussi, il y a beaucoup de récits en fait de femmes qui, par exemple, pendant une césarienne, avaient, pendant un moment de faiblesse, enfin de difficulté physique, à qui on a dit vous n'avez pas un corps apte à enfanter facilement ou à subir une césarienne, c'est dangereux pour vous, il faudrait pas que vous puissiez resubir ça, donc si vous voulez on peut profiter de cette opération pour vous stériliser. Et du coup en fait ça survient à un moment où il y a pas trop matière à réfléchir, enfin c'est pas le bon moment en tout cas. Et du coup, il y a des femmes comme ça qui se sont retrouvées prises de court et du coup stérilisées, forcées. Ce phénomène, on peut dire qu'il s'inscrit dans la persistance d'une idéologie eugéniste qui continue à sous-tendre certains discours et surtout certaines pratiques médicales. Or, l'eugénisme, on peut tout simplement dire que c'est inacceptable car ça rejette la notion d'humanité et la relègue sur des critères arbitraires certains individus au statut de non-personne ou de sous-personne. Il y a une sorte en fait de consensus moral qui semble exister autour du fait que les personnes en situation de handicap ne doivent pas avoir d'enfants, de peur souvent à tort que ce handicap ne soit ainsi perpétué. Et ce consensus est basé sur des logiques fondamentalement validistes et handiphobes, qui disqualifient, marginalisent et stigmatisent les personnes en situation de handicap. Or, même s'il se perpétue, le handicap est un fait avec lequel les personnes concernées composent au quotidien et il n'y appartient pas aux personnes dites valides de le connoter arbitrairement, positivement ou négativement. De plus, la mise à disposition pour les femmes handicapées de services de soutien de proximité, médicaux, financiers, psychosociaux, pédagogiques et éducatifs, leur permettrait de bien vivre leur maternité. Et par contre, ça semble être jugé trop coûteux pour une société qui préfère rendre ses naissances impossibles. Quant à la stérilisation forcée des personnes roms, elle est proprement scandaleuse et constitue une violation des droits reproductifs pour contrôler le taux de natalité d'une communauté jugée indésirable. Nous savons trop bien que le corps des femmes est toujours un objet de domination et les femmes roms, à l'intersection de différentes sources d'inégalités, font systématiquement l'objet de discriminations et de violences au quotidien en Europe. Ces stérilisations en sont un nouvel exemple. Donc on défend le choix. Puis nous on revendique qu'on puisse avoir le droit à la contraception et à l'avortement. On revendique aussi le droit à un accès égalitaire à la procréation pour toutes les femmes, quelles que soient leurs caractéristiques physiques et intellectuelles ou leur identité de classe et de race. Donc voilà, ça c'était pour quelques nouvelles en Europe sur ces différents cas. Et puis, sans transition, on va partir au Kurdistan pour des nouvelles informations toutes fraîches.
Cette semaine avec des nouvelles sur l'actualité des luttes dans les différentes régions du Kurdistan. Au Rojhelat, Kurdistan de l'Est en Iran.
Au Bakour, Kurdistan du Nord en Turquie.
Au Rojava, Kurdistan de l'Ouest en Syrie.
Et au Bashur, Kurdistan du Sud en Irak. Ces brèves sont faites à partir des nouvelles que nous envoient des amis kurdes directement sur place. Nous sommes au mois de mars et le 21, ce sera Newroz, le nouvel an kurde. En Iran, le contexte est un peu particulier, car la fête est aussi célébrée par les Perses et par les autres minorités iraniennes. Newroz n'est donc pas interdit en soi. En revanche, il est interdit qu'il soit kurde. Allez savoir comment ils définissent ça. Et surtout, il est interdit de se rassembler.
Mais les familles préparent dès à présent la fête en allant au marché, en achetant les tissus, en préparant les recettes. Et le gouvernement, de son côté, prépare dès à présent la répression. Par exemple, le ministre des Renseignements intérieurs a menacé plusieurs activistes dans la ville de Marewan en leur interdisant de participer à une quelconque activité en rapport avec Newroz, en les menaçant de les tenir responsables pour des événements qui pourraient se produire durant cette période. À Sna, 5 personnes ont été convoquées à la cour de la ville pour avoir organisé la fête de Newroz l'année dernière. Les arrestations au motif de, je cite, « atteinte à la sécurité nationale » continuent. Par exemple, l'activiste Ibrahim Khaledi vient d'être condamné à mort par la cour d'Urmiye pour ce motif. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'au Rogelat, certaines personnes arrêtées n'ont pas le temps d'attendre leur condamnation avant de trouver la mort. C'est le cas par exemple du prisonnier Talob Bessati, qui est mort dans la prison d'Ilam sous la torture. Talob Bessati avait été arrêté pour avoir brandi un drapeau kurde. À Djouanro, qui est une petite ville frontalière, seulement 2 jours après son arrestation, le corps sans vie de l'activiste Kouba Dazemi a été rendu à sa famille après avoir été torturé en garde à vue. Le gouvernement iranien continue aussi de traquer et de tuer les activistes kurdes, même en dehors de ses frontières. Le 1er mars, une bombe a explosé sur le passage de 2 peshmerga du PDKI dans la capitale du Kurdistan irakien, Hawler, qui se nomme aussi Erbil en arabe. L'un d'entre eux et son fils sont décédés par la suite à l'hôpital. Et au moment où nous rédigeons ces nouvelles, nous apprenons que le corps d'un commandant du PDKI vient juste d'être retrouvé dans un village au nord du Bachour. Le Bachour, c'est donc le Kurdistan du Sud, situé en Irak. Face à la répression, la résidence civile est dans les montagnes continue. La semaine dernière, les commerçants des villes de Bané et Peranchar ont organisé une grève pour dénoncer les mesures discriminatoires de l'État iranien au Rogelat et la fermeture, toujours plus militarisée, de la frontière. À Marewan, de nombreux commerçants ont également fermé boutique en soutien à l'action. De tels mouvements ont lieu régulièrement dans les villes frontalières. Ces villes-là sont particulièrement touchées par la destruction des terres et l'empêchement de toute activité économique qui est menée par les milices du gouvernement iranien contre les populations. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce sont exactement ces mêmes politiques de sous-développement qui poussent les habitants des villages à abandonner leurs terres minées pour devenir kolbar. Kolbar, donc, c'est ces personnes dont on vous parle régulièrement, qui transportent les marchandises de part et d'autre de la frontière irano-irakienne. Et en cette première semaine de mars, 3 kolbars ont été tués par les gardes frontières iraniens, 2 blessés et 2 autres sont morts de froid lors d'un passage. Les peshmerga kurdes iraniens du PDKI et du Komala, qui sont donc 2 parties, ont mené plusieurs opérations contre les gardiens de la révolution. Les gardiens de la révolution, c'est donc la milice armée du gouvernement iranien. L'une de ces opérations s'est tenue à Sakez le 26 février et une autre le lendemain à Bané. Enfin, le 27 décembre dernier, une iranienne nommée Vida Movahed est montée sur un plot au croisement de 2 boulevards de Téhéran. Elle a retiré son hijab et elle l'a tendu au bout d'un bâton en direction du boulevard. Cet acte de protestation contre les lois spécifiques de répression des femmes en Iran et contre le port obligatoire du hijab a été repris dans les semaines qui ont suivi par de très nombreuses femmes en Iran et diffusé via Internet. Le 1er mars, 27 femmes ont été arrêtées pour ces actions. Au Kurdistan aussi, les femmes ont repris le geste pour protester. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre elles se sont, pour ce faire, vêtues des habits traditionnels kurdes ou ont ajouté un haouli, c'est une étoffe traditionnelle kurde, montrant ainsi que leur révolte en tant que femme est intimement liée à la révolte en tant que kurde. Plus au nord, au Bakour, donc qui est le Kurdistan du Nord, qui se situe en Turquie, malgré l'hiver et l'offensive turque à Afrin, la guérilla au Bakour a été très active ces dernières semaines. Dans la province d'Ugdur, les combattants des HPG, donc les HPG pour rappel, ce sont les forces de défense du peuple, et c'est donc l'organisation armée mixte du PKK. Donc les HPG ont mené une action de sabotage contre les véhicules de l'armée turque en y mettant feu. Plusieurs soldats turcs ont été tués dans l'opération. Et les Hepégés ont également mené des opérations répétées dans les provinces de Hakkari, Şırnak et Botan, où de nombreux soldats turcs ont été tués et de l'équipement militaire détruit. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'habituellement, l'hiver est un temps plus calme pour la guérilla. Le PKK va par exemple en profiter pour tenir des programmes de recrutement, d'entraînement ou de formation. Et là, en réponse à l'annonce d'Erdogan d'éradiquer, je cite, la guérilla en 2017, le PKK a changé sa stratégie et choisi de plutôt intensifier les actions de guérilla, et ce, même en hiver. Dans les villes, les raids de l'armée turque dans les maisons continuent. À Erzurum, les soldats turcs ont exécuté 4 personnes suspectées d'appartenir au HPG dans une maison abandonnée. Ils ont ensuite mis feu à la maison. 7 autres personnes ont été placées en détention durant le même raid. Et des raids ont également été menés dans les villages de Rokhan, Baous, Egel, Kashran, Nerchletch, Silek et Darawa, qui sont des villages dans la région de Wan. Dans ces raids, dans ces villages, 30 personnes, dont l'identité n'a pas été communiquée, ont été placées en détention. Dans la région de Nusaybin, l'armée a déclaré un nouveau couvre-feu dans le village de Kertwen. Après avoir encerclé ce village par des chars d'assaut, un raid a été mené à l'intérieur du village et 6 personnes ont été arrêtées. L'armée turque a également annoncé une opération de très grande ampleur dans la région du mont Djoudi. La présence de soldats et d'armements lourds a d'abord été renforcée. Et fait plus curieux, parallèlement, des membres des unités de contre-guérilla, donc de contre-guérilla de l'armée turque, auraient été envoyés dans les villages de la zone. Ceux-ci se sont mis à porter les uniformes de la guérilla du PKK et prétendraient en faire partie, tout en harcelant et en molestant les villageois. Le HPG a également reporté l'utilisation de gaz chimique par l'armée turque à leur rencontre lors d'une opération militaire le 24 février dernier. Et enfin, 4 membres du BDP ont été arrêtés à Urfa pour des messages postés sur les réseaux sociaux que la police qualifie comme, je cite, « propagande pour une organisation terroriste ». Et pour finir, au Rojava. Le Rojava, c'est donc le Kurdistan de l'Ouest, situé en Turquie. L'armée turque continue de mener une très lourde opération militaire dans la région d'Afrin, qui est une région qui est administrée par le PYD, qui est le Parti de l'Union démocratique. Et les civils sont particulièrement touchés par les bombardements intensifs.
Voilà pour les actualités de la semaine au Kurdistan.
Vous pouvez les écouter en direct dans les infos de Radio Galère,
Radio Canu
et Radio Zinzine.
Les relire sur le site rebellion.info.org
et les réécouter sur le blog Arte Radio aux quatre coins des Kurdistan.
À la semaine prochaine.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
l'agenda !
Oui, et alors demain après-midi, il y a une manifestation super importante, c'est essentiel d'y aller, ça va être génial. En fait, c'est à 14h30, ça commence à Place de Terreau, du coup, au métro Hôtel de Ville, bien entendu, à Lyon. Hein ? Oui. Bah, en fait, c'est sûr, on déteste Gérard Collomb et on déteste sa politique antisociale et raciste. Et du coup, les revendications de cette manifestation sont multiples. La liberté de circulation et la régularisation des papiers pour toutes et tous. Un logement décent pérenne pour toutes et tous. L'abrogation du règlement Dublin qui oblige les migrants et migrantes à demander l'asile dans leur premier pays européen d'enregistrement. Et la prise en charge immédiate par l'aide sociale à l'enfance de tous et toutes les jeunes mineurs isolés et le droit à l'enseignement pour tous et toutes. Du coup, cette manifestation, elle vise à dénoncer la situation qui se passe à Lyon, mais plus largement au niveau national, pour les personnes précaires et plus particulièrement migrantes. des mineurs qui sont isolés à la rue, qui sont en attente d'une place à l'école, au lycée, des lycéens et lycéennes convoqués par la police de l'air et des frontières et qui sont menacés d'expulsion alors qu'ils sont scolarisés, des enfants sans toit dans les écoles. Aussi beaucoup de demandeurs et demandeuses d'asile sans hébergement alors que la loi oblige l'État à fournir un hébergement aux personnes qui viennent demander la protection internationale en France, et des délais d'attente énormes, 1 à 2 mois pour avoir le premier rendez-vous en préfecture, celui qui permet d'acter le fait qu'on a demandeur ou demandeuse d'asile et d'ouvrir les droits qui vont avec. Des centres d'accueil qui fonctionnent de plus en plus comme des centres de tri et dans lesquels on voudrait mettre un contrôle accru de la préfecture et de l'OFI pour virer toutes les personnes sans papier. Des familles qui vivent ici depuis plusieurs années et qui sont menacées d'expulsion alors que leurs enfants sont scolarisés. Des militants et militantes assignés au tribunal par la métropole pour avoir ouvert un immeuble non occupé afin de mettre à l'abri des personnes sans toit. Et aussi, bien évidemment, le projet de loi dont on vous a parlé tout à l'heure sur l'immigration et l'asile qui a été conçu par Gérard Collomb, auquel on pense très fortement tous les jours. Et du coup, en fait, on vous a tout à l'heure déjà parlé des mesures qui sont prévues par ce nouveau projet de loi concernant l'asile, qui en gros vont rendre l'asile impossible pour les personnes qui arrivent en France. Et il y a aussi d'autres mesures dont on ne vous a pas tout à fait parlé, mais qui concernent les personnes en général étrangères qui reçoivent des refus de séjour, pour lesquelles la durée maximale de rétention pourrait passer de 45 à 90, voire 105 jours, et plein d'autres mesures dégueulasses pour lesquelles tout le monde est en train de se révolter. Et voilà, du coup, tous et toutes venez le samedi 10 mars, demain à 14h30, place de Terreau.
Même si tu fais la fête cette nuit.
Oui, mais 14h30, ça donne le temps de bruncher et oui. Ensuite.
Mais pour demander de l'abrogation de Gérard Collomb, il faut quand même se donner les moyens.
Et cet agenda est tellement varié que je suis quand même obligée de vous proposer, même si cette manifestation est super importante, un autre rendez-vous possible demain. Désolée, tu as trois choix, cher auditeur, chère auditrice.
Ça, c'est la loi Macron, la libéralisation. Désolée.
À 14h, c'est le collectif Déraciné demain qui organise une après-midi afro-féministe avec la projection d'un film qui s'appelle « Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans ». Et puis derrière, il y aura un débat et avec plusieurs invités, notamment Elsa Dorlin, la réalisatrice du film qui s'appelle Fatima Sissani, et puis il y aura aussi d'autres invités. Alors ça devait se passer à la Griffe, et puis il y a eu tellement de demandes d'inscription que ça a été déplacé. Du coup, ça se passe à Instead, me demandez pas ce que c'est. Ça se situe 6 rue de la Pardieu dans le 3e, et ça sera à 14h. Du coup, il n'y a pas besoin de s'inscrire, je pense que la salle est grande. Et donc, donc pour déjà la projection et ensuite le débat, je crois qu'il faut y être à l'heure pour que tout puisse se passer dans l'après-midi. Fais ton choix entre la projection et la manifestation.
Oh, c'est horrible.
Et comme ton groupe de potes se sera scindé en deux, quoi de mieux qu'une prade de nuit pour se retrouver et se raconter ses après-midi respectives. Et oui, il y a une prête de nuit demain soir contre les agressions LGBTQIA-phobes le 10 mars. Agressions verbales, physiques, sexuelles, menaces, rejets, dégoûts, discrimination. Chaque jour, des personnes LGBTQIA+, sont agressées du fait de leur orientation sexuelle ou identité de genre, que ce soit dans l'espace public ou privé. L'espace public ne l'est donc pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que ces personnes organisent la riposte. Elles se donnent donc rendez-vous et vous donnent rendez-vous, donc nous avons tous rendez-vous, le samedi 10 mars à 21h, pour une pride de nuit en mixité choisie, personnes LGBTQIA et meufs, pour reprendre la rue la nuit.
Et voilà, alors si tu veux plus d'informations, tu peux retrouver ça sur le fameux site Rébellion, et tu peux également... écoutez l'émission de cet après-midi de On n'est pas des cadeaux, qui était spécialement là-dessus.
Et puis le Canu Info du vendredi, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine à 19h. On va laisser la place à Noise Pollution. Et on vient de nous annoncer une alerte convergence à Afrin et Bure.